En avant la musique
sur France Bleu Pays d'Auvergne.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans l'émission des musiques traditionnelles en Auvergne et ailleurs sur France Bleu Pays d'Auvergne. Vous le saurez si vous écoutez souvent cette émission, mais je pose souvent la question de l'origine et du choix du répertoire des artistes invités. L'émission du jour ne dérogera pas à la règle, mais cette question des collectes et de leur transmission et inclusion dans les musiques modernes sera bien plus intégrée au projet que mon invité est venu présenter. Je reçois aujourd'hui un homo sapiens sapiens, un homologue aux belles omoplates, mais surtout un homonyme, Romain Baudouin.
En avant la musique, Romain Marchand.
Salut Romain.
Adieu à tout le monde, salut Romain.
Alors, la petite question de début d'émission habituelle, c'est comment est-ce que tu es tombé dans la musique traditionnelle ?
Je suis issu d'une famille dans laquelle cette pratique-là des musiques et des danses traditionnelles est présente depuis le revival. Donc moi, je suis la deuxième génération en fait de... Donc mon père et mon oncle ont fait partie du mouvement revival dans les années fin des années 70, début des années 80 ici en Gascogne, en parallèle de gens comme les Perlin Pimpin, etc. et folk. Et moi et mes cousins qui sont aussi musiciens, on est la deuxième génération de ce mouvement là quoi. Voilà.
Ok. Et donc toi, tu as tout de suite joué de la vielle à roue?
Eh ben non, il a fallu attendre, tu vois, mes 18 ans.
D'accord.
M'y mettre. Avant, je faisais de la guitare.
Ouais.
Et puis, j'avais pas d'a priori sur ces pratiques-là. Quand je dis ces pratiques-là, c'est ce qu'on peut appeler les musiques traditionnelles. Je vivais avec autour de moi. Enfin, ça vivait autour de moi plutôt.
Ouais.
Mais j'avais pas d'a priori positif ou négatif là-dessus. C'est comme si c'était, je sais pas, ton père est fan de pêche.
Ouais, d'accord,
il va à la pêche et toi tu connais des pêcheurs, il y a la pêche autour de toi, t'es pas pour, t'es pas contre la pêche, mais tu vois ça quoi, voilà. Et en fait un jour j'étais à une partie de pêche à Toulouse, alors je rigole, hein, c'était un concert avec des potes pour aller voir Pêche et Plante à l'époque, qui avait sorti un album qui s'appelle No Quarter, donc tu vois c'était en 96 ou 97.
Tout à fait, super album.
Dans cet album No Quarter, voilà, il y a pas mal de musiciens traditionnels d'un peu partout, et notamment un anglais qui s'appelle Nigel Eaton qui joue de la vielle. Et donc moi j'allais voir du rock avec mes potes parce qu'évidemment on était... plutôt fan de métal, et donc du coup le métal venant du hard rock et le hard rock venant de groupes comme Led Zeppelin ou Deep Purple Black Sabbath, voilà.
Oui.
Et ben on n'avait jamais eu l'occasion de voir ces groupes un peu mythiques sur scène, et là Pedge et Plant se reformant, donc le guitariste et le chanteur de Led Zeppelin, nous on allait voir du rock. L'album n'était pas sorti physiquement dans les bacs, donc on savait pas trop ce qu'on allait écouter, mais on allait écouter Led Zepp en fait.
Oui.
Et le concert a démarré par un solo de Nigel Eaton à la vielle. Et c'est là, ce jour-là, que je me suis aperçu que, déjà, c'était monstrueux. Le solo était vraiment, j'avais un souvenir hyper marquant. 10 minutes de vielle comme ça, avec un énorme son dans un stade, c'était vraiment génial. Et puis surtout, je me suis aperçu déjà que je trouvais ça grandiose et fantastique, et que les gens autour de moi ne connaissaient pas cet instrument, alors que moi, j'en avais... depuis tout petit autour de moi, et que je pensais pas qu'on pouvait faire ça avec cet instrument, même si la pratique de ma famille était déjà quand même un peu progressiste, on va dire, dans ce milieu-là. Mais voilà, donc il a fallu un intermédiaire comme ça, et puis après je suis rentré chez moi, je devais avoir 18 ans ou 19 ans, je sais plus exactement en fait. Si, c'est facile à calculer, 96, ouais, j'avais 19 ans. Et là, je m'y suis mis à fond, quoi. Voilà, donc... on va dire que j'ai gagné un peu de temps, dans le sens que j'avais quand même le répertoire dans les oreilles, grâce à la transmission orale, pour l'avoir toujours entendu. Donc j'avais quand même beaucoup de morceaux, et encore aujourd'hui des choses que j'ai pas apprises en fait, que j'ai
des morceaux que tu connaissais, du style un peu tous les trucs un peu pas innés, parce que c'est pas le mot, mais qui était ancré en toi sans que t'aies allé à y réfléchir,
des choses en fait, tu sais, tu t'aperçois que tu sais les jouer, tu les as dans les doigts et tu les as jamais appris, donc ça j'en ai. Et puis la deuxième chose sur laquelle j'ai gagné du temps, c'est que j'avais des instruments réglés, c'est-à-dire que j'avais les vielles de mon père qui étaient des bons instruments et qui étaient réglés. Alors Pour ceux qui jouent de la vielle, ils savent quelle galère c'est quand tu démarres avec une vielle qui est déjà elle-même pas super et que toi tu joues pas terrible. Ça aide pas. Et puis la dernière chose, ben, j'étais étudiant, donc j'ai pris tout le temps qu'il fallait pour me mettre à faire ça de façon complètement forcenée. Et j'ai pas arrêté depuis, voilà.
Oui, à l'âge donc, où on a le temps et en plus la passion est bien bien grande.
Exactement.
Donc en fait,
exactement.
C'est le meilleur moment, le parfait moment pour geeker,
ouais,
la vielle. Bon alors, avant de passer à la suite, on va écouter un premier morceau et puis juste après, tu pourras nous présenter le projet dont tu viens parler aujourd'hui. On l'écoute tout de suite. Alors Romain, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ?
Alors on vient d'écouter un des morceaux de l'album Area qui vient de sortir, qui est aussi plus qu'un album, qui est un projet en fait autour de la pratique de la vielle ancienne. Donc là on a écouté un morceau qui s'appelle Briulus et Sunsain. Et en fait, on entend trois personnages. Donc, il y a deux personnages qui ont été collectés dans les années 60 par la mission ATP dans les Landes, Donc le musée des arts et traditions populaires qui aujourd'hui était transféré, enfin en tout cas les fonds ont été transférés au MUSTAM à Marseille. Dans les années 66-65, il y a des deux collectrices qui ont été ethnomusicologues, qui ont été enregistrées des Landais. Et donc elles ont enregistré Henri Dauba et René Lolland, qui sont deux violoneux. Et le troisième personnage, c'est moi, puisqu'en fait, on entend les collectes et je joue avec elles. C'est-à-dire, je leur réponds. Alors là, l'idée de ce morceau, précisément, donc, on va dire que sur ce morceau-là, Henri Dauba et René Lolland, en tout cas, à la fin, il dit... alors là, on l'entend pas sur cet extrait musical, mais dans la collecte, il dit qu'il joue comme une vielle à roue. C'est-à-dire qu'il joue du violon avec un son continu. Et du coup, moi, je joue, là, de la vielle à roue comme un violon, c'est-à-dire que je joue avec un archet sur une vielle à roue. Ce qui n'est pas du tout pratique ni commode. Et du coup, ça donne cette espèce de son un peu nickel arpa, brinque-ballant, un peu...
avec un peu même un petit peu de pizzicato à un moment.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, tapping, c'est que... Ouais, c'est ça, c'est du tapping avec une vielle donc, de 1930, donc il n'y a pas toutes les capacités de vielle comme on peut pratiquer aujourd'hui, de roues qui s'enlèvent, etc. Donc je bidouille en fait mon instrument. Donc la vielle sur laquelle je joue, c'est une vielle de Janza de 1930. C'est une vielle 6 cordes, cordes boyau. Elle a un tempérament, on va dire, inégal. Et donc elle a vraiment le son de ces vielles anciennes, là, voilà, ce type de son un peu qui va de l'aigu au médium aigu, avec un tout petit peu de médium grave. Et qui a un son effectivement assez frêle et en même temps très, pour moi, qui a beaucoup de grain et beaucoup de dynamique. Et comme je le joue à l'archet, ben on entend une espèce de nickel arpa, voilà, comme je disais, quoi, un peu rustique, quoi. Et donc ce morceau-là précisément, c'est une espèce de mise en abîme, un peu à la Rick et Morty, quoi, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que c'est un joueur de vielle qui essaye péniblement d'imiter un joueur de violon, et le joueur de violon lui répond en essayant d'imiter péniblement un joueur de vielle, quoi. Donc ouais. C'est une mise en abîme de ça. Voilà, donc c'est un jeu. Et en fait, l'ensemble des morceaux de Area, c'est ça, c'est-à-dire à chaque fois, c'est une collecte. Donc ça peut être chanté, ça peut être joué à la vielle, au violon, à l'accordéon. Et moi, en fait, je l'accompagne, quoi. Alors des fois je joue avec, des fois je lui réponds, des fois elle me répond. Et l'idée, en fait, c'est de présenter. En fait, l'idée de base de ce projet, c'est deux choses. C'est d'expérimenter, en fait, des modes de jeu contemporains ou expérimentaux sur une vielle ancienne et qui n'est pas modifiée. Et en parallèle de ça, de valoriser cette mission de collectage et de la mettre en fait dans une vision artistique et non pas plus qu'ethnomusicologique, puisqu'en fait au départ ces collectes elles avaient été faites avant tout pour à titre d'observation et puis de travail de recherche, quoi. Et voilà. Et donc mon idée, c'est de pouvoir les présenter en fait aussi comme des objets artistiques et d'y entendre des praticiens. Alors, du coup, je me mets pas spécialement moi à l'honneur. Hein, c'est plutôt les collectes et la vielle qui est mise à l'honneur. Et voilà, l'ambition de ce projet, c'est celle-là.
Eh bah, ben super. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire area? Je le prononce bien? C'est pas mal, je crois.
Ouais, area.
Je me suis entraîné. T'as vu, je travaille mon occitan petit à petit.
Ouais. Et allez, il faut rouler un peu les.
Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que chez vous, ça roule comme chez moi, donc c'est pas mal. Du coup, ça veut dire quoi, area?
Alors, ça veut dire recommencer. Alors, du coup, dans ma tête, en tout cas, c'est aussi une façon pour moi. J'ai travaillé longtemps sur des vielles. Contemporaine, l'évolution de la lutherie, j'ai participé un peu à ça à mon niveau, j'ai inventé des systèmes, je joue sur une vielle électrique, notamment dans un groupe qui s'appelle Artus. Voilà, et c'est plutôt pour ce travail-là, on va dire, d'amplification, de distorsion et de recherche, un peu dans la lignée de ce que faisait aussi quelqu'un comme Valentin Classerier, avec qui j'ai eu la chance de jouer et que j'ai eu la chance de côtoyer. Donc moi, je me suis inscrit quand même pas mal dans cette histoire-là, on va dire, plutôt de travail, de technique sur l'instrument, et puis aussi de recherche sonore alliée à l'électroacoustique ou l'amplification. Et du coup, les techniques modernes de vielle à roue, ben, je les ai beaucoup travaillées. Et du coup, mon idée, c'était de me dire, ben, tiens, si on revient au départ de l'instrument, c'est-à-dire quand Valentin, grosso modo, l'a pris dans les années 80, dans l'état où il était, et qu'il a, lui, en fait, il y a amené, si tu veux, c'est un artiste tellement, à mon avis, hein, tellement puissant qu'il a complètement réorienté tout le son de l'instrument, a été calqué finalement sur les modifications qu'il a fait lui, notamment avec Missura.
Je pense que c'est partagé par la plupart des gens qui connaissent un petit peu la vielle. Il a quand même révolutionné la pratique de l'instrument. Voilà, il fait partie des gens qui l'ont fait, quoi. Mais...
Ouais, bien sûr. Mais il a marqué, si tu veux, son temps dans le sens qu'il l'a marqué de façon sonore aussi. C'est-à-dire que Valentin, c'est quelqu'un qui est dans la composition, l'écriture et également la technique. C'est-à-dire que ses morceaux étaient et sont toujours, hein, il continue à composer, toujours très techniques. C'est-à-dire qu'un morceau, une idée d'un morceau vient au départ souvent d'une quelque chose de technique qu'il a travaillé sur l'instrument. Et du coup, cette façon de faire la musique et cette direction qu'il a amenée au son, c'est-à-dire un son de plus en plus alto, de plus en plus chaleureux avec des grosses basses et tout, ça a fait école. C'est-à-dire que la plupart des luthiers aujourd'hui, même acoustiquement, ils ont calqué ça. Et moi, à force d'avancer aussi de mon côté, je me suis dit, moi, le son des vielles anciennes, vraiment, comme je te disais, tu vois, quelque chose de plus étriqué, tout ça, me plaît quand même. Et puis ce côté grinçant, ce côté claquant, ce côté bruit de touche, voilà, c'est tout ce qu'on a voulu gommer pendant ces 50 dernières années ou 40 dernières années. Et moi, je me suis dit, je vais essayer de repartir au départ de ça et de voir aujourd'hui, avec tout mon parcours, mes capacités techniques, ma vision de la vie moderne, de ma vielle moderne et tout ça, si je reviens sur une vielle ancienne, est-ce qu'on peut développer, on va dire, un nouveau chemin avec beaucoup, beaucoup d'humilité, hein. Je ne prétends pas du tout créer un nouveau chemin comme a pu le faire Valentin. Mais en tout cas, j'utilise cette vision des choses et cette façon de faire sur... en revenant quelque part au départ, quoi. Et donc, je m'aperçois, par exemple, que pour faire des divisions de tours de roue... en vielle à roue, on parle en division de tours de roue, c'est ce qu'on appelle les coups de poignet, pour ceux qui connaissent, voilà. Moi, j'ai toujours cru, et ça aussi, ça vient de Valentin, que pour faire des coups de 8, des coups de 6 ou des coups de 12, il fallait avoir deux chiens bien réglés, etc. Moi, je m'aperçois qu'avec ma petite vielle ancienne, maintenant que je sais le faire sur des vielles modernes, et que que ma mécanique interne est réglé et que mon corps sait le faire et que j'arrive à le comprendre, eh bien j'arrive à les faire sur ma petite vielle ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir trois chiens. Avec un chien, on peut le faire. Mais il faut, effectivement, il passe un peu de temps. Voilà. Donc il y a ça. Et d'un autre côté aussi, c'est le retour aussi un peu aux sources par rapport au collecte, c'est-à-dire de reprendre en fait, du répertoire ancien qui, lui, en fait, a de magnifiques, un peu la même chose que cette vielle ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas formaté, c'est pas standardisé, c'est pas normé. Et donc, on a affaire à des gens qui, dans les années... Alors, sur cette collecte-là que je travaille dans ce projet, c'est des années, je l'ai dit tout à l'heure, dans les années 60, c'est des gens qui avaient 80, 90 ans dans les années 60. Ça veut dire qu'ils sont nés au siècle dernier. Ouais. Enfin, au siècle même d'avant, maintenant.
C'est ça.
Au début du...
Il y a deux siècles,
oui. Voilà. Ouais, voilà. Donc, ils sont nés aux alentours de 1880-1900. Et souvent, c'est des gens qui n'avaient pas encore, comme nous... Moi, c'est carrément mon cas. Hein. C'est-à-dire que j'ai une oreille qui a été formatée depuis que je suis né à la musique tempérée, tonale, binaire, métrée, qu'on entend partout et que, qu'on le veuille ou non, on est quand même matraqué de ça. Donc, dès qu'on a affaire à des musiques qui ne sont pas dans ces codes-là, c'est toujours un peu difficile à appréhender. Ou alors, on adore ça. Par exemple, les musiques ethniques extra-européennes et tout... Beaucoup de gens adorent ça parce que justement ils y entendent ça. Mais dans les musiques de chez nous, souvent on a tendance à dire ah, ça joue faux, ça grince, ah non, c'est pas bon, etc. Et voilà. Et donc mon idée c'était de dire en fait, on a aussi ces valeurs entre guillemets de musique de détail, de musique de fond, un peu de choses qui sont pas formatées dans les musiques anciennes de chez nous, quoi. Et donc l'idée c'était aussi de les reprendre, de les mettre en valeur et d'essayer avec cette vielle, avec comme je disais, des petites bidouilles, du coup, il faudra aller voir un peu les vidéos et puis venir peut-être un jour voir en live pour voir, d'essayer de les accompagner. Parce que du coup, moi, je les touche pas dans leur intégrité. C'est-à-dire que je joue avec elles à la hauteur et à la dynamique dans laquelle elles étaient au moment de la collecte. Donc, imagine bien que quelqu'un qui a enregistré dans sa cuisine, il chante pas spécialement en do ou il chante pas spécialement en maîtré.
Ouais, d'accord.
Même pas en situation de balle, si tu veux, tu vois.
Ouais.
Voilà. Moi, je m'adapte à eux, c'est-à-dire je fais un espèce de karaoké à l'envers. C'est-à-dire que le chanteur, lui, il chante, il déroule son truc, et moi, je m'adapte et j'essaie de trouver des façons de jouer au milieu entre les deux avec. Voilà, c'est ça l'idée.
Ok, super. Bon, on va tout de suite écouter un deuxième morceau que je te laisserai prononcer parce que je ne te ferai pas cet affront-là et je te le dirai et tu pourras le présenter encore une fois juste après cette écoute.
La servante sai me ventan de tan sai me ventrau morirei de tan noi ne vi morirei jo se di lu bailet jo kai tan de hami se di lu bailet jo kai tan de hami de tan cum nei prau morirei jo prau de jo la servente que m'en vaille à pan, pan, le mouflet joue à tu vaillet, pan, le mouflet joue à tu vaillet. C'est dit le vaillet, joue qu'il t'en décès, c'est dit le vaillet, joue qu'il t'en décès. Des temps comme n'est, brave mourirai, mourirai, joue, brave des joues. C'est dit la servante que m'en vaille à vin, c'est dit la servante que m'en vaille à vin. Bin, le paillet, joue à tu vaillet, bin, le paillet, joue à tu vaillet. C'est dit le vaillet, joue qu'il t'en dérit, c'est dit le vaillet, joue qu'il t'en dérit. D'un coup n'est pas où vous mourirez, d'un coup n'est pas où vous mourirez. Mourirai joue, c'est dit la servante, veille tenir ta couette, c'est dit la servante, veille tenir ta couette. De auprès du rouec, brave bailet, auprès du rouec, brave bailet, je me rappelle plus là. Et l'eau, ah oui, fermé, voyons, attendez. Oh, excusez-moi. Et après, comment ça se dit, donc? C'est Dilou. Ça y est? C'est Dilou Bailet, joue Gaëtan des Pots. C'est Dilou Bailet, joue Gaëtan des Pots. Des temps qu'on est, brave, mourirai, mourirai, joue, brave, des joues. C'est Dilou, la servante de Kawana Oulay. C'est dit la servante de Kawana Oulay. Aouliai leite, joue et tu vaillet. Aouliai leite, joue et tu vaillet. C'est dit le vaillet, je n'ai pas mes pots. C'est dit le vaillet, je n'ai pas mes pots. Ni pot ni red, ni aminicet. Ni pot ni red, ni aminicet. Et vaillet.
Alors, on vient d'écouter un morceau qui s'appelle, du coup, je vais te laisser le dire, mais je... vas-y, vas-y.
L'ubaïlet et la servante.
Voilà, donc le valet et la servante.
Ouais, tout à fait.
Et je trouve que ça correspond très bien à ce que tu disais juste avant qu'on écoute le morceau, à savoir que tu prends la collecte, le collectage tel qu'il est, et tu fais avec. Et tu en parles dans une autre interview et tu dis qu'en fait, la dame, à un moment, elle a perdu ses mots, elle ne sait plus la suite de la chanson et tout, mais tu l'accompagnes quand même. Et je trouve qu'il y a un respect qui se dégage de ce truc-là, en fait, un respect de la personne, un respect du truc, où en fait, toute la collecte, c'est un moment de poésie en tant que tel. Et toi, tu rajoutes juste ton petit grain de sel, tu dis juste « regardez, c'est beau », et puis tu nous aides à l'apprécier d'une autre façon. Et je trouve que c'est super. C'est pour ça que je voulais passer ce morceau-là. Je trouve que c'est très, très, très représentatif de tout le projet. Voilà.
Merci.
Bon, de rien. Ouais. Est-ce que tu as pu entendre... alors, dans les morceaux que tu as choisis, déjà, j'imagine que tu as pioché quelques morceaux parmi une foule et une masse gigantesque de morceaux. Est-ce qu'il y a quelques anecdotes sur les gens collectés, sur la collecte en elle-même, qui te viennent à l'esprit comme ça, là? C'est une question un peu difficile,
brûle-pourpoint. Oui, il y en a une, tu vois, qui est... Alors, c'est notre histoire, enfin, quand je dis notre histoire, c'est que j'inclus toujours les gens avec qui je travaille depuis plus de 25 ans, qui sont les autres membres d'Artus. Notre histoire est farcie de comme ça, d'anecdotes, en fait, ou soit de synchronicité, soit de choses un peu mystiques qui nous rattrapent. Alors évidemment, je pense que c'est parce qu'on y fait attention et qu'on les découvre. Bon, mais en tout cas,
c'est le principe du mysticisme, exemple, c'est qu'on voit ce qu'on a envie de voir.
Oui,
aussi,
tout à fait. Mais moi, je
c'est pour ça que c'est beau.
On vit
aussi,
très bien avec ça quand on en est conscient. C'est ça. J'y mets aucune valeur. Je dis pas que c'est quelque chose de fantastique ou de magique ou ça devait nous arriver.
Je suis complètement d'accord avec toi.
On est dans on est des gens, nous, qui passons notre temps à chercher des détails et du coup, plus on en cherche, plus on en trouve, quoi. Donc c'est l'infiniment grand qui rejoint l'infiniment petit, bon, etc. On revient à Rick et Morty, tu vois.
Ouais,
mais surtout, mais par exemple, j'en ai une qui me vient à l'esprit, là, qui n'est pas complètement dénouée. Mais il y a un joueur de vielle dedans qui s'appelle Loupé Sicotte. Son nom de famille, c'est Pierre Garabos. Et je travaille sur ces collectes depuis plusieurs années. Et il y a 2 ans, j'ai fait une résidence à Bernos-Beaulac, dans les Landes, avec le Festival des Nuits Atypiques. Et je travaillais sur cette pièce-là, une pièce de Pierre Garabos, dit Loupé Sicotte. Et en rentrant, je passe par le village de notre famille, qui est à Red Jones, donc dans la Grande Lande, là, vers, dans les villages au milieu de la forêt. Et en rentrant, je me dis, tiens, je vais passer par le cimetière, où je ne vais absolument jamais, parce que je passe à côté. Donc je me suis arrêté et je cherchais la tombe des Baudouin et des Tasté, puisque notre famille du côté landais, c'est la famille Tasté. Et en fait, en cherchant la tombe des Tasté, je ne trouve pas mon arrière-grand-mère. Et donc j'appelle mon père et il me dit, cherche à Marie Garabos. Je ne savais pas que mon arrière-grand-mère s'appelait Marie Garabos. Et d'accord. Là, je lui dis, mais attends, c'est incroyable, elle s'appelait Garabos. Il me dit, bah oui, oui. Et donc là, je fais le rapprochement. Je lui dis, mais attends, mais elle était de la famille de Pierre Garabos, donc mon père ne savait pas. Et donc, on a commencé à faire des recherches. Et en fait, il y a des probabilités fortes pour que ce Pierre Garabos-là soit un de mes aïeuls voilà, descendants. Et donc, je ne le savais absolument pas. Donc, j'en suis toujours pas. Je me suis arrêté à la Révolution française. Tous les Garabos sont dans le village de mes grands-parents et lui, il est pas loin, etc. Donc, il doit y avoir à un moment donné un rapprochement. On n'est pas réussi à redescendre encore jusqu'à la filiation totale. Mais il y a de très fortes chances. Et donc, d'un seul coup, bah, ce joueur de vielle, bah, pour moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est hyper important dans ces pratiques-là et la pratique artistique, et c'est pour ça que moi, je suis artiste et pas ethnomusicologue, c'est que nous, on cherche de la symbolique, quoi. On cherche du sens et à charger symboliquement notre pratique, quoi. Et de donner à travers ce sens une vision à nous d'un moment ou une vision ouais, du monde qui nous entoure, quoi. Et moi, en fait, par exemple, ce joueur de vielle, maintenant, quand je l'écoute, je l'écoute plus pareil. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de valeur sentimentale qui s'est nouée entre lui et moi. Et même si elle est arrivée, je découvre que il n'est pas de ma famille et qu'en fait, il y a plusieurs. Voilà. Bah, à la limite, c'est pas grave parce que moi, je suis pas là pour chercher la véracité des faits. Ouais, ou, il y a une belle histoire.
Il aura été une nourriture pour ton art d'une façon ou d'une autre, en fait. Donc, ça sera quand même important. C'est une forme d'affiliation, quoi. Ouais.
Et c'est là où on a de la chance, nous, les artistes, c'est qu'on n'est pas obligé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je prends les collectes. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai une partie de moi qui est intéressée par l'ethnomusicologie et je me renseigne. Et évidemment, j'essaye d'avancer là-dessus. Mais en fait, moi, ça me plaît ou ça me plaît pas, ça me parle pas. Et en fait, une fois que je charge ça symboliquement et que je m'en occupe, et ben en fait, ça existe à travers moi. Et après, moi, je dis pas du tout, par exemple, que tous les joueurs de vielle landais jouaient comme ci ou comme ça. Je cherche pas à recouper des sources. J'écoute une collecte, je la trouve belle, je la travaille. Et après, derrière, des fois, j'y trouve un sens supplémentaire que je n'avais pas vu au départ, qui était juste une valeur, on va dire, esthétique, de beauté. Et du coup, je me dis, ah ben tiens, c'est quand même fou, ce gars-là, ça se trouve, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Et je ne le savais pas, et je l'ai redécouvert par des biais différents, c'est-à-dire des ethnomusicologues de Paris qui ont finalement renvoyé les bandes en province parce que le Mucem à Marseille s'est créé, donc on a pu les récupérer. Moi, je les écoute. Le gars s'appelle Loupé Sicotte. Finalement, j'apprends à travers des recherches qui s'appelle Pierre Garabos. Je tombe sur ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui s'appelle Marie Garabos, et je m'aperçois qu'ils sont peut-être cousins ou même peut-être directement de la même famille. Et là, ça devient fou, en fait. Et ouais. C'est ça que je trouve vraiment très puissant. Même si, finalement, les gens, tu vois, je leur raconte pas ça. Ça, c'est mon histoire à moi. Mais voilà, je trouve ça... j'aime bien me perdre dans des trucs comme ça.
Mais c'est très intéressant. Et malheureusement, l'émission touche à sa fin. J'aurais adoré, ça serait super de
trop bavard. Faire...
Non, c'est bien. J'aime bien les invités comme toi qui font l'émission tout seul. C'est super, c'est très agréable pour moi aussi. Il y aurait 2 heures à parler de ce projet et de ta pratique de la musique, je pense, mais au moins 2 heures. Mais il va falloir se quitter pour là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, on rappelle, le projet s'appelle Area et c'est un projet qui est aussi accompagné d'une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà, vous cherchez Area Romain Baudouin, vous allez trouver ça. C'est hyper beau en plus, ce qui ne gâche rien. C'est un super truc à regarder.
Ouais, parce qu'il y a un film en fait. L'album est enregistré, a été filmé et enregistré. Donc il y a un film. Dans le film, il y a 2 morceaux de plus en improvisation.
D'accord.
Que sur l'album, quoi. Voilà. Mais c'est les mêmes morceaux. Mais voilà, ça a été filmé. L'enregistrement a été filmé parce que c'est un live en fait en extérieur. Voilà.
À Jazzalouse, c'est ça?
Non, il y a un film aussi. Ah, il y a un film qui s'appelle Area Lou Film.
Ah, mais si, c'est bien de ça que je parle au départ, mais je croyais que tu... D'accord, ça roule. Ok, donc il y a les deux, ouais. Parce qu'en plus, il y a la captation qui a été faite au Festival de Jazz, qui est aussi super. J'ai regardé les deux dans la semaine, là, j'avoue, je me suis fait un petit plaisir. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là, Romain. Au plaisir de te croiser bientôt ailleurs que dans un téléphone, ce sera vraiment super. On se quitte avec un dernier morceau qui s'appelle... Chansons de Emnas, là par contre je ne suis pas bien sûr. Les chansons de Emna peut-être ? Vas-y, prononce-le toi, dis-le.
Chansons de Emnas.
Chansons de Emnas, eh bien super.
Chansons de Emnas, ouais. Les chansons de femmes.
Ouais. Eh bien on se quitte avec ça. Merci beaucoup Romain d'avoir été là. Et chers auditeurs
merci
et auditrices,
à
la semaine prochaine.
grand Dieu que je suis un monde. Grand Dieu que je suis un monde. D'avoir un niño près de moi. D'avoir un niño près de moi. De temps en temps, je la regarde. De temps en temps, je la regarde. Ma douce fille, embrasse-moi. Ma douce fille, embrasse-moi. Comment veux-tu que je t'embrasse? Comment veux-tu que je t'embrasse? Tout le monde dit mal de toi, tout le monde dit mal de toi.